L'Inconfortable, le podcast intersectionnel haut en couleur qui te sort de ta zone de confort. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast intersectionnel L'Inconfortable, le podcast qui aborde sans détour les discriminations en Suisse. Je m'appelle Kasio Arem-Rotzetter, je suis journaliste, formatrice et spécialiste en discrimination multiple et en intersectionnalité, et je m'intéresse particulièrement aux enjeux liés au racisme, au sexisme et à l'hostilité anti-LGBT. Je suis moi-même une femme défavorablement racialisée issue de la migration kurde et queer, et aujourd'hui j'ai l'opportunité de plonger au cœur des réalités du racisme en Valais. Cette nouvelle série, elle sera composée de 6 podcasts et c'est une initiative qui est spécialement conçue pour la Semaine contre le racisme 2024 du canton du Valais en partenariat avec le Bureau cantonal de l'intégration et le Bureau d'écoute contre le racisme de la Croix-Rouge du Valais. Elle découle d'une campagne de recensement de témoignages de racisme menée en 2023 et axée autour du slogan « Du racisme chez nous, je témoigne ». Et tout ça, ça a permis de recueillir des récits anonymes qui décrivent les expériences quotidiennes de racisme qui sont vécues par les individus en Valais. Et donc ce podcast, il sera enrichi par des témoignages qui ont été enregistrés à partir de personnes qui ont vécu des discriminations racistes en Valais, et ces témoignages sont anonymisés pour protéger l'identité des témoins. Et des victimes, évidemment. Il faut savoir que les discriminations raciales, elles sont encore monnaie courante aujourd'hui, aussi bien en Valais qu'ailleurs en Suisse, comme le prouve d'ailleurs le rapport annuel de la Commission fédérale contre le racisme. En 2022, 17% de la population a déclaré avoir subi une discrimination raciale au cours des 5 dernières années en Suisse. Et depuis les premiers relevés, c'est-à-dire en 2010, les chiffres ont nettement augmenté, avec pour cible une majorité de jeunes et de personnes issues de la migration. Il faut savoir que ces oppressions, elles peuvent prendre différentes formes selon les cas. Ça peut être des discours de haine en ligne, des agressions verbales et physiques, sans oublier évidemment les discriminations dans divers domaines comme l'éducation, l'emploi et le logement. Il faut d'ailleurs faire remarquer que par rapport aux 1,2 million de personnes qui se disent concernées, le nombre de signalements est dérisoire. Parce qu'on sait que même si le nombre des cas traités par les centres de conseil augmente chaque année, la plupart des actes de discrimination ne sont toujours pas déclarés. Et dans cet épisode pilote, on va justement explorer différentes dimensions du racisme en mettant l'accent sur le racisme systémique à l'école et au travail. On parlera aussi de racisme anti-noir et on fera la distinction entre le racisme implicite et le racisme explicite. On abordera aussi l'importance de sensibiliser et de former les enseignants et les enseignantes, les élèves, les employés des entreprises publiques et privées pour qu'ils et elles obtiennent les outils nécessaires à la déconstruction de leurs propres biais racistes. Merci de vous joindre à nous dans cette exploration profonde et nécessaire des injustices raciales en Valais. Et sans plus attendre, je vous invite à écouter un extrait du témoignage du jour donné par une personne que j'ai fictivement nommée Ilunga, un nom courant en République démocratique du Congo et qui, selon différentes sources, signifie tantôt « unir », tantôt « celui qui est prêt à pardonner une première fois, à tolérer une deuxième fois, mais pas une troisième fois ». Bonne écoute.
Alors je viens faire un témoignage sur une expérience assez désagréable que j'ai vécue dans un cycle d'orientation en Valais. C'était pendant un cours d'allemand, il y avait plein d'élèves qui faisaient du bruit, et j'en faisais partie. C'est assez important de noter le fait que j'étais pas le seul, même si ça change rien à ce qui s'est passé. Le professeur me regarde et me dit « On se calme, bon boula ». Alors quand j'ai entendu ça, j'ai pas tellement su comment le prendre. Surtout à cet âge, quoi. Et ensuite, je me suis senti pas mal aliéné, parce que je me suis posé la question « Pourquoi est-ce qu'il me dit ça à moi ? Pourquoi est-ce qu'il me fait un commentaire à moi, précisément, et pas aussi aux autres élèves qui font aussi du bruit ?» Je pourrais comprendre qu'il gronde la classe, même si c'est pas très gentil qu'il fasse un commentaire dérisoire envers la classe en entier, au lieu que ce soit moi, précisément, et que ce soit un commentaire racial.
Ce qu'a vécu Ilunga dans son école, ça s'appelle du racisme systémique. C'est un concept qui désigne les structures, les politiques et les pratiques qui perpétuent la discrimination raciale envers certains groupes de personnes qui sont perçues comme différentes à cause de leur nationalité, de leur pays d'origine, de la culture qu'elles pratiquent et ou de leurs marqueurs phénotypiques racialisants, comme par exemple la couleur de peau, la texture de leurs cheveux, la forme de leurs yeux, etc. On comprend donc que, contrairement au racisme individuel ou interpersonnel qui repose sur les attitudes et les comportements préjudiciables d'un individu A envers un individu B, le racisme systémique, lui, il est enraciné dans les institutions et les systèmes sociaux, et ça le rend encore plus difficile à identifier et encore plus dur à combattre. Il se manifeste par exemple à travers des inégalités qui sont persistantes dans le domaine comme l'éducation, le logement, l'emploi, le système judiciaire, etc. Enfin, partout là où les personnes de certains groupes sociaux sont désavantagées par rapport à d'autres. Prenons le domaine de l'éducation et de l'enseignement par exemple. Là, le racisme systémique, il se reflète souvent dans les inégalités en matière de réussite scolaire. Donc, on va constater en fait que les élèves qui sont issus de la migration et ou défavorablement racialisés, ils sont souvent confrontés à des obstacles, comme par exemple un accès inégal aux ressources éducatives ou encore des politiques disciplinaires qui sont disproportionnées. Et ça, c'est précisément ce qu'a fait le prof d'Ilunga, en le prenant à part du reste de la classe pour le réprimander personnellement, alors que tout le monde faisait un peu de bruit. Tous ces obstacles, en fait, ça entrave forcément la progression académique des élèves qui sont, à long terme, marginalisés et ça perpétue le cycle d'inégalité. Il faut savoir qu'en Suisse, le racisme dans le domaine de l'éducation, c'est malheureusement toujours une réalité. Selon une enquête menée par le Programme international pour le suivi des acquis des élèves en 2018, les élèves d'origine étrangère et ou défavorablement racialisés sont plus susceptibles de connaître des difficultés scolaires que leurs pairs suisses. Et en effet, les résultats, ils ont relevé que seulement 35% des élèves d'origine étrangère ont obtenu des scores satisfaisants en maths contre 60% en moyenne pour les autres élèves. Et parallèlement, une étude de l'Institut de recherche en éducation de l'Université de Zurich a montré que les élèves issus de minorités sont plus susceptibles d'être orientés vers des filières moins prestigieuses et d'avoir des attentes académiques moins élevées de la part de leurs enseignants et de leurs enseignantes. En plus de ça, les programmes éducatifs sont encore souvent biaisés et ils reflètent très rarement l'histoire, la culture et les contributions issues des minorités, ce qui limite forcément le sentiment d'appartenance et d'engagement dans le système éducatif de la part des élèves issus de ces mêmes minorités-là. Bref, tout ça pour vous dire que le racisme dans les écoles, c'est encore monnaie courante de nos jours et ça perpétue les inégalités dans le système éducatif suisse. Et n'allez pas croire que ces discriminations sont manifestées uniquement par les profs, loin de là.
Alors la deuxième expérience de racisme explicite que j'ai vécue, ça s'est aussi passé dans le même cycle d'orientation d'ailleurs. Pendant un cours de sport, on devait faire des exercices de saut en longueur dans un bac à sable. Et une fille de ma classe se retourne vers moi et me dit « Tu devrais te rouler dans le sable, comme ça tu blanchis un peu. » Alors j'ai pas réagi quand j'ai entendu ça. Parce que à un moment j'ai eu la réflexion de « Est-ce que c'est une blague ? Est-ce que c'est moi qui comprends pas ? Est-ce que c'est moi le problème ?» Au final. Mais avec un peu de temps, j'ai commencé à réaliser que c'était pas du tout une blague. C'était clairement un commentaire qui avait pour but de me rabaisser. Parce que ce genre de commentaire, ça porte vraiment atteinte à la dignité d'une personne. On se sent tout de suite isolé, on se sent autre, à l'extérieur du groupe de la classe.
Quand sa camarade a suggéré à Ilunga de se rouler dans le sable pour blanchir sa peau, elle a probablement répété ce qu'on lui a appris à la maison, à l'école ou encore ailleurs. Mais dans tous les cas, sa remarque, c'est un parfait exemple d'une forme bien particulière du racisme qu'on appelle le racisme anti-noir et qui, selon les données statistiques, est encore un problème préoccupant dans notre pays. En fait, selon une étude de l'Office fédéral de la statistique qui a été menée en 2019, les personnes noires afrodescendantes sont 3 fois plus susceptibles de faire l'objet de discrimination à l'embauche par rapport à la population suisse blanche. Évidemment que ça vaut aussi pour les autres domaines. Et cette forme de racisme qui est dirigée contre les personnes noires, le prof d'Ilunga l'a aussi manifesté quand il l'a appelé Pambula, probablement sans même vraiment réaliser la portée de ce mot. Ce terme, il est considéré comme raciste parce qu'il a été historiquement utilisé de manière péjorative pour décrire les personnes noires, en particulier en référence avec des stéréotypes dégradants. Et son origine, elle remonte à l'époque de l'esclavage et de la colonisation, où il était souvent employé par les colonisateurs pour déshumaniser les personnes afrodescendantes réduites en esclavage. Et c'est pour ça qu'il faut peser ses mots avant de les balancer à la figure du premier venu. Parce que parfois, les mots, c'est pas juste des mots. Et ce terme Bamboula, ça a marqué Ilunga à vie. Et la preuve, il s'en rappelle toujours des années après avoir terminé son école. Et pourtant, il n'est pas au bout de ses peines. Parce que quand il grandit, Ilunga, il trouve un emploi qui lui plaît et dans lequel il se sent bien. Mais il va réaliser rapidement que le milieu du travail, lui non plus, il n'est pas dénué d'enjeux raciaux.
Le troisième témoignage, c'est quelque chose de beaucoup plus implicite. Et peut-être bien pire, si je peux me permettre de dire ça. J'étais au travail et j'ai emprunté les clés à un collègue pour aller me faire un café dans la salle de pause. Quand je finis mon café, je vais lui rendre ses clés et il me regarde dans les yeux, il prend ses clés et devant moi, il vérifie que toutes ses clés soient là. C'est aberrant, ça démontre un manque de confiance totale et c'est super insidieux, quoi. C'est pour ça que je trouve que le racisme implicite est des fois peut être bien pire que le racisme explicite. C'est que je peux jamais être certain des bases sur lesquelles la personne elle a eu cette action, quoi. J'ai jamais eu de comportement déplacé envers cette personne. Alors, pour moi, le manque de confiance qu'elle a eu envers moi est probablement racialement motivé.
On l'aura compris, le racisme systémique est présent partout, y compris dans le milieu du travail. Comme quoi, même quand on a fini l'école pour entrer sur le marché du travail, les discriminations racistes ne s'arrêtent pas pour autant. En revanche, il peut prendre une forme différente, moins explicite, que l'a manifesté le collègue d'Ilunga. Il n'est pas venu lui dire directement « Hé, toi le noir, je te fais pas confiance avec mes clés ». Mais il a bien fait comprendre, indirectement, en vérifiant son trousseau avec méfiance. Et parfois, c'est presque pire. Parce que cette forme de racisme, qu'on appelle le racisme implicite, c'est particulièrement difficile à prouver et à dénoncer. C'est-à-dire que là où le racisme explicite est souvent évident et facilement identifiable, puisqu'il est ouvertement manifesté à travers des attitudes, des comportements, des actions qui expriment une croyance en la supériorité d'une supposée race sur une autre, le racisme implicite quant à lui fait référence à des préjugés qui influencent les perceptions et les comportements des individus sans qu'ils en aient nécessairement conscience. Forcément, dans le domaine du travail, ces préjugés implicites peuvent aussi se manifester de manière insidieuse à travers des pratiques institutionnelles racistes, comme l'embauche discriminatoire, les disparités salariales, les possibilités limitées d'avancement professionnel et le harcèlement sur le lieu de travail. Par conséquent, les travailleurs et les travailleuses issues de minorités sont souvent confrontés à des microagressions et à des obstacles pour accéder à des emplois de qualité et sont plus susceptibles d'être cantonnés à des emplois précaires et mal rémunérés, ce qui forcément entrave leur bien-être et leur épanouissement professionnel et perpétue, à terme, les inégalités économiques et sociales. Une étude menée par l'Université de Neuchâtel en 2019 souligne qu'à compétences et à CV égal, les personnes naturalisées suisses qui portent toujours un nom perçu comme « étranger » doivent envoyer en moyenne 30% de candidatures en plus pour un emploi ou un appartement. Et pourtant, malgré toutes ces mauvaises expériences à l'école comme au travail, Ilunga ne perd pas pour autant espoir que les choses finiront par s'améliorer au fil des générations.
Alors si je devais faire une conclusion, ce serait de souligner l'importance de l'éducation des jeunes et de la sensibilisation des jeunes au racisme. Parce qu'à l'âge adulte, je pense que le racisme, on le vit de manière beaucoup plus implicite.
Ce que dit Ilunga, c'est parfaitement pertinent. Pour lutter contre le racisme, il est nécessaire de reconnaître et de remettre en question les structures et les normes qui perpétuent l'oppression raciale en mettant par exemple en œuvre des politiques ou des initiatives qui visent à promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion. Parce qu'on en conviendra, aujourd'hui, il est essentiel de former le corps professoral aux enjeux du racisme à l'école pour créer un environnement éducatif inclusif et respectueux de la diversité. On le sait. Les enseignants jouent un rôle crucial dans la socialisation des élèves et dans la promotion des valeurs d'équité et de respect. En suivant des formations qui les sensibilisent au racisme et à ses manifestations subtiles, les enseignants et les enseignantes peuvent mieux reconnaître et contrer les préjugés dans leur manière d'enseigner et de gérer leur classe, de manière à créer un climat d'apprentissage où tous les élèves et toutes les élèves peuvent se sentir valorisés et respectés. On pourrait aussi sensibiliser les élèves au racisme dès leur plus jeune âge à travers des ateliers interactifs, histoire de prévenir la perpétuation des schémas racistes et d'encourager le respect mutuel pour les prochaines générations. Et parallèlement, il serait aussi temps de former les chefs et les employés dans le secteur public, dans le secteur privé aussi, contre leurs propres biais racistes qui pèsent malheureusement encore trop dans le domaine du travail. De fait, les décideurs et les décideuses, en particulier les responsables des ressources humaines, ont un impact significatif sur les politiques d'embauche et les décisions de promotion. Donc, en reconnaissant et en confrontant leurs préjugés inconscients, ils et elles peuvent garantir des processus d'embauche justes et équitables pour favoriser la diversité au sein de l'entreprise et créer un environnement de travail sécurisant. En plus, la sensibilisation des employés aux problèmes de racisme pourrait favoriser des relations interpersonnelles plus harmonieuses et renforcer à long terme la cohésion et la collaboration au sein de l'équipe. Enfin bon. Nous voici à la fin de cet épisode spécial de L'Inconfortable, consacré au premier témoignage de racisme en Valais. Si vous êtes victime de discrimination raciale ou si vous en êtes témoin, n'hésitez pas à contacter le bureau d'écoute contre le racisme de la Croix-Rouge Valais. Depuis le 1er avril 2015, ce service offre un espace d'accueil, d'écoute et de soutien aux personnes victimes de racisme, ainsi qu'à leurs proches et aux témoins. En plus de ça, je vous encourage vivement à poursuivre la réflexion contre les discriminations racistes et intersectionnelles dans nos écoles. Et pour ça, je vous invite à vous inscrire à la formation théorique que je donne prochainement à l'HEP Fribourg, intitulée « Vers une éducation inclusive, introduction à l'intersectionnalité ». Elle aura lieu le 25 mars 2024 et ce sera l'occasion d'approfondir vos connaissances sur le racisme, le sexisme et l'hostilité anti-LGBT pour prévenir des discriminations dans les lieux d'éducation et d'enseignement. Et pour info, je prévois aussi de proposer prochainement une formation similaire, mais adaptée cette fois-ci au monde du travail, avec pour but de sensibiliser les structures publiques et les entreprises privées aux discriminations multiples et intersectionnelles pour leur proposer des mesures inclusives concrètes grâce à des ateliers interactifs, d'exercices pratiques, de mise en situation qui seront animés par des comédiennes afrodescendantes. Dernière info, avec l'association L'Inconfortable, on propose régulièrement des formations, des ateliers, des tables rondes, des conférences, des podcasts, des capsules vidéo et encore plein d'autres activités qui sont destinées à lutter activement contre les discriminations racistes, sexistes, homophobes et intersectionnelles. Et tout ça dans le but de créer une société plus inclusive. Donc on va bientôt créer un site pour recenser tout ça, mais en attendant, si nos activités vous intéressent, n'hésitez surtout pas à nous contacter sur les réseaux ou par email. Merci encore pour votre écoute, parce que c'est pas rien, il s'agit là d'un premier engagement dans la lutte contre les discriminations racistes. Merci à Nathan Matondo de l'association Carré Rouge qui a réalisé les enregistrements des témoignages et à la boîte Forme pour les graphismes. Je remercie aussi chaleureusement le bureau cantonal de l'intégration et le bureau d'écoute contre le racisme de la Croix-Rouge du Valais pour leur précieuse collaboration et pour leur soutien. Un grand merci à Faïza Cissé pour les musiques et les jingles de cet épisode. On se retrouve bientôt dans un prochain épisode. Ciao !